Ensuite, on va retirer tout simplement quelques idées, quelques enseignements. Donc la pensée de ce matin, l'Église en action, d'accord ? Les Actes des Apôtres, chapitre 9, et le verset, on va commencer par 18. Et jusqu'à 25. Alors, est-ce que, Arnaud, tu peux nous lire à haute voix ? Tu es en face. C'est ton tour aujourd'hui. Hein. Ouais, tu peux prendre le micro.
Un, deux. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille.
Ça va, c'est bon ? Tu as lu donc 25, c'est bon. Voilà, merci. Alors, quand on parle de Saul, c'était qui ? Plus tard, l'apôtre Paul. Paul, si vous voulez, il était d'origine juive, mais il était aussi païen. Il avait nationalité romaine, à l'époque, l'Empire romain. Donc, il pouvait se réclamer juif, il pouvait se réclamer romain. À l'époque, romain, l'Empire romain. Ils avaient, l'Amérique d'aujourd'hui, quoi. C'était une puissance, c'était connu, c'était là. Tout le monde, quelque part, avait le respect envers les Romains. Et Paul, en même temps, au départ, donc Saul, il était un homme très intelligent, très instruit, diplômé. Et en même temps, très religieux, il croyait en Dieu. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faisait ? Il persécutait les chrétiens. Incroyable, hein ? Il avait l'autorisation, beaucoup d'autorisation des autorités pour aller s'introduire dans des réunions comme ce matin, c'était dans des maisons, chez les uns, chez les autres, dans les maisons, dans des familles. Et puis voilà, on arrêtait les chrétiens pour les emprisonner. C'était terrible. Et regardez ici, on voit le contexte d'avant, ce que nous avons lu, donc dans le chapitre 9. Et puis donc le verset 4. Vous allez voir comment, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, d'autres connaissent bien, de quelle façon le Seigneur lui a parlé. Donc voilà, il allait avec les autorisations pour aller arrêter les chrétiens. Et tout à coup, voilà, Jésus lui a parlé et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était terrible, hein. Mais en même temps, voilà, Jésus l'arrête. Stop. Et pourtant, il avait les autorisations, il allait plus loin pour arrêter les chrétiens, pour les emprisonner, pour les faire souffrir. Quelle histoire, hein? Et puis, Jésus voyait son cœur, finalement, parce qu'il pensait finalement qu'il faisait bien. Il pensait qu'il faisait quelque chose de bien. Il faut les détruire, les hérétiques, et tous ceux qui prêchent Jésus comme le Fils de Dieu, etc. Voilà, il fallait les détruire. Donc, mais il allait finalement complètement, totalement contre la volonté de Dieu, parce qu'il entend la voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que c'est Jésus qui était persécuté ou est-ce que c'est les chrétiens qui étaient persécutés? Eh bien, si on persécute les chrétiens, on persécute aussi qui? Jésus, parce que Jésus habite en nous, il est notre Seigneur. Si on vous fait mal, si on vous critique, si on vous rejette, on rejette qui? Jésus. On critique qui? Jésus. Vous voyez, c'est comme ça. Et là, l'apôtre Paul était saisi par la puissance de Dieu. Un miracle de Dieu qui est tombé sur lui. C'était, voilà, le rendez-vous divin puissant. Et puis, Paul, ensuite, voilà, il se retrouve devant Ananias, donc quelqu'un qui est venu prier pour lui parce qu'il ne voyait pas, etc., etc. Et donc, il y avait aussi la parole prophétique pour Paul, comme quoi, voilà, cet homme va pouvoir annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, et en même temps, c'est lui, il souffrira pour ma cause, pour la cause de l'évangile. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis donc, comme Ananias est venu, on a vu ça dans le verset 18, voilà, il a prié pour lui, il a ouvert les yeux, il a vu à nouveau, il était baptisé, et puis voilà, il se met au travail, mais il travaille différemment. Il travaillait contre Jésus, maintenant il va travailler avec qui? Avec Jésus. Ah, quel changement, hein? Quel miracle, c'est formidable. Ce que Dieu peut faire avec un homme, et ce que Dieu peut faire avec toi et moi, et ce que Dieu peut faire en travers de Paul, il peut faire en travers de toi et moi, en travers de nous. Amen. C'est aussi simple. Donc vous voyez, c'est une histoire formidable. Donc Paul, avec une conviction, d'accord, il s'enfermissait parce qu'il découvre une autre vie. Tout est différent pour lui. Là-dedans, tout a craqué, ça a chauffé là-dedans. Quoi? Je persécutais Jésus et maintenant je travaille avec lui, pour sa gloire. Alors là-dedans, ça craquait, vous comprenez, je vois. Voilà, un Français cartésien qui est touché, puis qui est là-dedans. Ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc la parole de Dieu nous dit que Paul s'édifiait, s'est fortifié, parce qu'au début, c'est voilà, qu'on est un bébé, on est un enfant, on ne sait pas tout, on apprend, il y a les expériences, etc. Et il a commencé à prêcher Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il a prêché que Jésus est le Fils de Dieu. À cette époque-là, prêcher, parler de Jésus avec les Juifs, c'était quelque chose d'inacceptable. Les Juifs ont refusé. Les Juifs, avant, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? Ils l'ont crucifié. Ils ont crucifié Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Et tout à coup, un peu plus tard, quelques dizaines d'années après, Paul arrive. Il a donné sa vie à Jésus. Et il annonce l'évangile, il annonce Jésus. Il dit à tous ces juifs et tous ces gens qui étaient autour de lui que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un mystère, Jésus le Fils de Dieu. Mais Dieu est descendu à la personne de Jésus lui-même sur cette terre. Amen. Donc vous voyez, Saul, Paul, prêchait Jésus, que Jésus était le Fils de Dieu. et que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde, le Sauveur du monde. Oh, le Sauveur du monde. Alors voilà la rage partout, la révolte quand j'en parle. Quoi ? C'est lui qui rentre dans les synagogues, là où il y avait la tradition, là où on prêchait l'Ancien Testament, là où il y avait les pharisiens, là où il y avait les gens religieux, bien habillés, là où il y avait des gens qui avaient la gloire, qui avaient l'autorité sur la population, les gens qui étaient bien vus, qui avaient des habits, voilà, qui, et devant qui on devait quelque part s'humilier pour dire bonjour, etc., les élever, etc. Et tout à coup, Paul arrive là et il prêche tout à fait autre chose. C'était insupportable pour eux. Insupportable. Et il décide quoi ? Bon, il y en a marre. Cet homme, c'est un perturbateur. Cet homme annonce autre chose. Ça ne correspond pas du tout à ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, ce que nous désirons. Et le verset 23, regardez, quelle histoire. Essayez de s'imprégner dans cette histoire, d'entrer un peu entre les lignes, entre les expressions dans cette belle histoire. Parce que vous savez, quelquefois, nous, on passe aussi par des moments difficiles. Aussi. Et on se retrouvera certainement dans certaines situations. Alors le verset 23 nous dit, au bout d'un certain temps, donc ça chauffait là-dedans, hein. Les juifs, ne se concertèrent pour les tuer. Ah. Oh. On a décidé de l'assassiner. C'est catastrophique, hein. Le tuer, l'assassinat égale la mort. On a construit un complot contre lui. Pourquoi ? Parce que Paul annonçait la vie là où il y avait la mort spirituelle. On est d'accord ? Là où il y avait la mort spirituelle. Il n'y avait que la tradition, il n'y avait que la connaissance. Voilà, Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour faire quoi ? Pour sauver l'humanité, pour te donner l'espoir, l'espérance, etc. Donc Paul annonçait la vie là où il y avait la mort spirituelle. Il est venu annoncer le salut en Jésus-Christ, le salut par la foi en Jésus-Christ. Oui, pas par la tradition, pas par l'Ancien Testament, pas par d'autres... schéma, c'est Jésus qui est le schéma, la vie et la vérité. Et Paul annonçait le salut en nom de Jésus-Christ, la délivrance aux captifs, etc. Alors maintenant, on va analyser un peu ce texte. Supposez que Paul aurait été tué dans cette maison à Damas. Supposez. Un instant que Paul aurait été tué, assassiné. Ou encore, peut-être... ceux qui tenaient les cordes, vous savez, les laissaient s'écraser. Parce que vous avez compris, l'Église en action. Ah ben là, il y avait une Église. Il y avait les disciples et Jésus-Christ. Deux ou trois, Jésus est avec nous. Deux ou trois, nous sommes une Église, d'accord ? Là, une Église qui prend une initiative et se met dans un moment de combat, de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on va faire ? On veut tuer Paul. Et on surveille la maison. Regardez, quand il va sortir, ben il est à nous. On va l'assassiner. C'est fini. C'est le désordre qu'il apporte parmi nous. D'accord ? Et voilà, on a trouvé une solution. On a descendu Paul, certainement dans un panier, avec des cordes. C'était connu à l'époque, il y a d'autres histoires comme ça dans l'Ancien Testament. On a retiré quelqu'un avec les cordes d'appui. On a descendu quelqu'un, on a sauvé la vie de quelqu'un par les cordes. Imaginez-vous que ceux qui tenaient les cordes pour faire descendre Paul par les murs là, par la fenêtre, et si les cordes lâchaient, si quelqu'un qui disait bah, « J'ai un rendez-vous, je dois partir tout de suite, je m'en fiche, je m'en vais aller boire le café chez Rebecca parce qu'elle m'a invité. » Vous comprenez, il y a tellement de choses, tellement d'occupations, de rendez-vous, des aides. Voilà, on est tellement organisé, l'agenda est là, tout ça. Mais là, le moment où il fallait sauver, libérer Paul avec ces cordes-là. Et puis ensuite, Paul est parti. Et les assassins n'ont pas pu tuer Paul. On est d'accord? Et parce que Paul était sauvé, Paul est devenu porteur de la vie pour l'Europe à travers des siècles. Et aujourd'hui, Arnaud est sauvé. Pourquoi? Parce que Paul a payé le prix, bien sûr, par la foi en Jésus. Bien sûr, on n'enlève rien à Jésus, mais Jésus se sert des hommes et des femmes. Paul a été élu, choisi, appelé par Jésus. Voilà, et Paul avait une mission pour évangéliser l'Europe et les garder. Supposez que Paul aurait été tué là. Et si jamais ceux qui tenaient le corde le laissaient s'écraser. Alors Paul, après avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, il a vraiment décidé de communiquer les saluts aux autres. D'accord? Aux autres. Il était l'homme qui allait apporter le christianisme partout dans la région et aussi, je vous ai déjà dit, en Europe. Il était porteur de la vie éternelle. De la vie éternelle, il portait la vie là où il y avait quoi? La mort spirituelle. Les destinées des nations se jouaient au bout de cette petite corde. Il y avait la vie, il y avait une parole prophétique, il y avait l'espoir, il y avait l'espérance. Dans la personne de Paul, là, et regardez, il y avait les disciples qui faisaient un travail important, voilà, parce qu'on l'a libéré, on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble, on était là, présents, fidèle au poste. Alors, l'éternité, quelqu'un disait, un évangéliste, que l'éternité, et j'aime cette expression, l'éternité des millions d'êtres humains dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a la vie de certaines personnes dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu es conscient que tu es important, que tu es le fils ou une fille de Dieu, habité par Dieu? Et Jésus veut travailler avec nous. J'aimerais vraiment attirer votre attention pendant quelques instants, sur cette maison justement à Damas en Israël, où Paul et les disciples apprenaient que les Juifs veulent l'assassiner. Essayons de voir ça. Et je vous ai déjà dit, là on voit l'Église en action. On travaille, on trouve une solution. Mais vous savez, l'Église aujourd'hui, c'est toi et moi, c'est vous et moi, c'est les chrétiens. Plus on est uni, plus on est respectueux, plus on est déterminé, plus notre mission sera efficace. Donc, l'Église en action, c'était l'Église en action, était menacée de mort. C'est bien ça, c'est ce que vous avez compris? Alors, l'Église, aujourd'hui, c'est vous et moi. Sachez que chaque action d'une Église qui communique l'espoir, l'espérance ou la vie est menacée de quoi? De mort spirituelle. L'ennemi n'était pas heureux, il n'était pas content quand Jésus m'a arraché de l'enfer. Il s'est déchaîné. Il était révolté parce que quelqu'un est venu à l'enfer pour m'arracher de la gueule de lion. Amen. C'est la mort ou la vie. On est clair ce matin. C'est tranchant. Il y a la vie ou la mort devant nous. Mais nous avons choisi quoi? La vie en Jésus-Christ. Pas dans une dénomination, pas dans une religion, pas dans des traditions. Mais nous avons choisi, nous avons accepté la vie en Jésus-Christ. Et c'est avec lui que nous vivrons dans l'éternité. Est-ce que vous êtes heureux? Parce que Jésus est venu vous sauver comme il a sauvé Paul. Mais attention, il y a demain, il y a après-demain, il y a dans une semaine, il y a dans un mois, il y a dans 5 ans. Il n'y a pas longtemps, j'étais jeune et j'observais souvent, j'ai voyagé, on voulait apprendre. J'observais le chevet gris, aujourd'hui j'ai le chevet gris. Et j'ai dit, comment il fait? J'aimerais le toucher, cet homme par qui Dieu se sert. Voilà, on a voyagé dans d'autres, même plus tard, j'avais 40 ans, 45 ans. Je courais après Dieu, même si Dieu est toujours là. Mais je courais là où il y a quelque chose qui se passait. Parce que je voulais apprendre, je voulais savoir. Et aujourd'hui, j'apprends encore, mais en même temps, je dis, à un moment où j'ai accepté Jésus, je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, je serai là? Et dans 10 ans, nous étions là! Est-ce que dans 10 ans, je serai là? Et 10 ans après, nous sommes toujours là devant la face de Dieu. Et puis les 40 ans se sont passés du mariage et dans le ministère et j'ai regardé dans les yeux de ma femme, de Christiane, et je lui ai dit, on renouvelle l'avenir encore pour 40 ans. C'était tellement beau. Les difficultés, les combats, les menaces de mort savouria par rapport à la vie que Jésus nous a accordée. Les enfants ont commencé à grandir. Et puis on a vu les enfants qui servent le Seigneur. Quelle joie! Alors je ne sais pas si ça sera 40 ans encore sur cette terre, mais peu importe, l'éternité est devant nous. Amen. Ah, c'est beau tout ça. Donc, vous voyez, chaque action d'une Église qui communique l'espoir, l'espérance, la vie est menacée de mort. Spirituelle. On va prendre quelques exemples pour vous montrer que on se retrouve souvent dans une chambre, dans une pièce, dans une maison, comme Paul avec les disciples. Prenez exemple la prière. Combien à notre époque les chrétiens ont difficulté de prier. Aujourd'hui, pour monter une réunion de prière, c'est pas facile. C'est général partout dans les églises. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous empêche délicatement, diplomatiquement, gentiment, il veut nous rendre tiède, hein, c'est ça, hein, pour que l'œuvre de Dieu, au lieu d'avancer, puisse stagner. Parce que s'il n'y a pas la prière, on a toujours dit que la prière, quand je parle de la prière maintenant, la prière de l'Église, parce qu'il y a l'Église personnelle, individuelle, tu te réveilles le matin, tu passes du temps avec le Seigneur. C'est normal, il faut se ressourcer par la prière. Mais quand on prie ensemble, comme dans les Actes des Apôtres, vous avez vu les obstacles, les difficultés, on s'est tourné vers les disciples et on leur a dit, c'est fini, maintenant, vous allez arrêter prêcher, annoncer Jésus. D'accord ? Vous pensez que les disciples ont accepté ça facilement ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont réunis et ils ont dit, Seigneur Jésus, nous voulons changer cette situation. Et puis ensuite, Jésus a fait en sorte qu'il pouvait, dans la liberté, annoncer l'Évangile. La puissance de la prière fait quoi ? Briser les chaînes, les oppositions et les obstacles. La prière, c'est le dialogue avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est développer une relation personnelle avec Dieu. Et puis ensuite, actuellement, il y a aussi l'intercession. Ici, il y a un bon groupe qui se met en place. On a prié il n'y a pas longtemps, entre 20h et minuit. Là, il y avait vraiment un bon groupe, là. La pièce était remplie, là-bas. C'est bien, parce que les uns et les autres, vous comprenez que finalement, l'intercession, c'est pouvoir quoi ? C'est pouvoir percer, aller plus loin, démolir, détruire les forteresses diaboliques. Les oppositions. C'est ça, hein? Percer, aller plus loin. Faire reculer les oppositions. Donc vous voyez, l'intercession, c'est percer. L'enseignement, on parle de l'enseignement. Si on s'arrête juste ce que vous apprenez dimanche, c'est vraiment passé, parce que dans la semaine, vous, dans la vie de tous les jours, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit déjeuner, déjà, à midi on mange, et puis le soir on mange, et puis en France on mange entre deux, et en France on mange encore entre deux, ça fait quelquefois six fois, et puis on grignote entre deux. Et en Amérique, bah, vous êtes dans la voiture, et puis vous avez le coca, là, sur les volants, là, et puis vous avez les biscuits, là, et puis pff, tout le temps, ils mangent pas, hein, ils mangent pas juste... C'est rare quand ils s'arrêtent pour manger, mais ils mangent toute la journée, un petit peu grignotent, et après, ben, vous savez ce qui se passe. Ils sont, voilà. Je ne vais pas les critiquer, nos amis les Américains, mais c'est comme ça. Voilà, donc nous avons besoin de quoi ? Manger. Et spirituellement, nous avons besoin de quoi ? Ben, c'est nourrir, ouvrir la parole de Dieu, lire un verset, peut-être plus. Et puis il y a aussi les actions dans l'Église, différentes actions, il y a l'étude biblique, il y a l'intercession. Ben c'est pour qui ? Ah, c'est pour nous tous. Amen. Voilà, donc vous voyez toutes ces choses-là pour que nous puissions avancer. Donc la prière, l'intercession, l'enseignement, et partout, nous avons vraiment beaucoup de difficultés de réunir les gens parce qu'on a toujours des excuses. Et puis sachez que si vous venez pour la prière, si vous venez pour l'accueil, vous venez pas pour moi, vous venez pas pour une religion, vous venez pas pour faire plaisir à quelqu'un, vous venez pour Dieu et pour vous-même. Amen. C'est ça. Moi, quand je viens dimanche, je ne viens pas du tout. Ma priorité n'est pas du tout prêcher quand je prêche. Même quand je suis en mission, ma priorité, c'est de dire Seigneur, merci parce que je vais te louer avec mes amis. Vous comprenez ce que je veux dire? La priorité, c'est l'adoration, la reconnaissance à Dieu, parce qu'il est vivant, il est puissant, il nous aime. Voilà, donc, la prière, l'intercession, l'enseignement, l'adoration aussi. L'adoration, c'est pas toujours la même chose que l'intercession, que la proclamation, que la louange. Il y a des nuances entre tout ça, mais l'adoration, c'est adorer, c'est élever, c'est personnellement, c'est concentrer sur la personne de Jésus, de développer une relation intime, personnelle avec lui, peu importe ce qui se passe autour de moi. Je développe, je le contemple, j'adore, c'est lui qui est mon sauveur et ça me donne la force et ça me fortifie. Amen. Donc vous voyez, l'adoration est aussi un domaine très important. Alors, si nous sommes engagés dans la prière, dans l'intercession, dans l'enseignement, dans l'adoration, la proclamation, etc., ça devient une autoroute vers le salut des âmes. Nous avons difficulté de percer. Vous voyez vous-même combien vous avez difficulté témoigner à la parole de Dieu. Déjà, peut-être, dans votre famille. Nous avons beaucoup de familles, Christiane et moi, et souvent nous pensons à des frères, des sœurs, des beaux-frères, des cousins de nos enfants, puis on apprend, on va chez ma belle-mère et elle nous raconte toutes ces misères, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ont décroché. Il y a des choses très difficiles chez certains. Et puis nous pensons à ces personnes-là. Et puis souvent on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aller chercher un cousin, un frère, une belle sœur? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je suis porteur de la vie. Là où il y a la mort. Amen. Donc vous voyez, si l'Église est mobilisée, si l'Église est en action, si chacun va tenir sa corde, vous avez compris? Une corde quelque part? Sur cette corde est prophétique, porteur de la vie, hein? C'est peut-être la prière, c'est peut-être un encouragement, c'est peut-être un brisement des oppositions. Voilà, une corde où tu t'engages. On ne peut pas tout faire, mais une église qui se mobilise pour que la vie puisse couler plus loin. Amen. Donc vous voyez, ça devient une autoroute après. Ça dégage la neige, comme aujourd'hui, pour aller plus loin, pour communiquer la vie à ceux qui n'ont pas, ou briser d'autres oppositions. Parce qu'il y en a des oppositions, hein, il y en a des combats. Alors, il y en a un âge qui a pris le baptême et je lui pose la question, ça va? Et comme elle est toujours transparente, on discute bien, elle m'a dit, j'ai déjà dit à ta femme, hein, bon, bah, c'est bon, c'est bon. Elle m'a dit, c'était dur, elle m'a montré comme ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle a une mise de chaîne, il va nous détruire. Tu es dans cette maison-là, avec Paul et les disciples, et voilà, l'ennemi de chaîne veut te détruire, empêcher, veut t'endormir. Il veut enlever tes chaussures pour te mettre les pantoufles, pour que tu deviennes chrétien. Dans les salons, sans rien faire, voilà, c'est bon, c'est les autres qui tiennent la corde. Alors, vous êtes avec moi? Alors, vendredi, ici, on était là dans l'adoration, enfin, dans l'intercession. Puis la personne qui dirigeait, qui présidait cette réunion, voilà, j'écoutais bien chaque fois son encouragement. Elle nous a dit, on va adorer le Seigneur. C'était ça, hein, louer le Seigneur, parce qu'il est bon, il est grand, etc., etc., pour commencer. C'était ça, hein? Non? Vous avez oublié? Et puis ensuite, deuxième point, la personne nous dit, maintenant, on va, j'aimerais pas déformer, mais on aimerait se retrouver dans cette prière, comme si on était devant la croix de Jésus, hein, c'est ça. Et la croix de Jésus, c'est quoi? C'est ses souffrances. C'est lui, devant sa personne. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Voilà, cette personne, elle pensait à nous. Quelquefois, il faut être un peu jaloux, égoïste plutôt, dans les bons sens. Hein. Attention, hein, c'est parce que je ne trouve pas un autre mot, mais égoïste dans les bons sens, pour dire, avant, je pense à moi. Oui, je dois chercher Dieu. Oui, je dois m'asseoir devant la grâce de Dieu. Oui, je dois me fortifier. Oui, je dois vraiment avoir une relation avec Dieu. On a besoin des moments comme ça. Et des moments comme ça, beaucoup, le culte, c'est comme ça aussi. L'adoration, la louange, on adore Dieu. C'est nous, c'est pour moi. Voilà. Et comme on a tout le monde, finalement, le dimanche, ben, on fait aussi l'évangélisation, bien sûr. Et puis ensuite, troisième point, si j'ai bien compris, pour ceux qui étaient là. Cette personne, elle nous dit, ben, nous allons prier pour toutes ces actions, pour les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Vous comprenez? Voilà, on adore Dieu, on élève. Ensuite, oui, je reçois, je reçois. Et puis ensuite, j'ai vraiment adhéré à ce qu'elle a dit, cette personne. On va prier pour les autres, on va prier pour les actions. On va tenir le corde pour que nous puissions communiquer la vie par les biais de toutes ces actions que nous faisons, que nous mettons en place. Et ça c'était formidable. Vous savez, Paul est passé par des moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'il prêchait l'évangile. Il dérangeait les traditions. Il dérangeait la mort. Parce que quand il arrivait, là où il avait la mort, je parle de la mort spirituelle, il apportait la vie. Les gens sauvés, guéris, libérés, etc. Alors il était dérangeant. Et Paul, souvent, se trouvait dans des difficultés, dans les épreuves. Mais il était plus que vainqueur parce qu'il disait lui-même, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui? Si Dieu est avec nous. Vous voyez, donc c'est formidable. Nous avons quelquefois des moments vraiment bénis. On arrive à la maison et puis on s'est dit, oh là là, formidable. On était là, deux personnes sauvées. Dans une église, dans une autre, deux personnes sauvées. Puis ensuite, on arrive là, deux personnes sauvées. Quelquefois, c'est comme ça, hein, deux, ou trois, je ne sais pas pourquoi. Et puis tout à coup, voilà, il y a les épreuves qui arrivent. Il y a les difficultés qui arrivent. Il y a les coups de fil qui arrivent. Et à un moment, Christiane m'a dit, il ne faut pas que ça soit négatif. Il y en a assez. Et puis il y a des moments où on est perturbé. On est dans les nuages, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi ce coup de fil? Pourquoi on nous menace qu'on viendra dans une réunion pour nous, pour mettre en l'air une réunion que vous ne savez même pas? Pourquoi? Parce que la vie dérange. Parce que la puissance du Saint-Esprit dérange. Parce que Satan est dérangé. Et Dieu se sert de nous en même temps pour apporter la vie. Alors moi, je me retrouve quelquefois avec Paul dans cette maison-là. Où il y a des menaces. Tout ça, c'est satanique. Mais on sait que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, je répète, qui sera contre nous? Nous serons victorieux. Mes amis, nous sommes une église qui porte la vie là où il y a la mort. Je répète. Quelquefois, à culte, c'est comme si on est dans une maison et puis il y a des menaces. Quelquefois, on me dit juste comme ça, bon, on espère que la sonde va marcher. Parce qu'il y avait des problèmes, même dans des choses comme ça. Paul, quelquefois, me dit, je les vois un peu stressés comme ça. J'ai envie de lui dire de déstresse-toi, mais si je lui dis ça, il va dire tu ne comprendras pas. Bon, je caricature. Parce qu'il faut que les machines marchent. Il faut que ça marche. Vous comprenez, un culte, c'est tellement important pour Dieu, nous on est habitués. Tellement important. Viens là pour élever le nom de Jésus. Et il y a les oppositions. C'est comme si on était dans cette maison avec Paul et les disciples. Il y a des menaces. L'ennemi, c'est deux chaînes. Il veut nous arrêter. Regardez, ne vous sentez pas concernés. Il y avait de la neige. Beaucoup de gens qui ne sont pas venus. C'est naturel. Même nous, il y a un moment où on voulait... Ça commençait à neiger, on s'est dit, oulala. Mais comme on nous a téléphoné que la porte était bloquée, la clé cassée dans la serrure, bon, on y va quand même. Mais regardez, quelquefois, vous avez même difficulté de venir à l'heure au culte. Attention, je ne vise personne. Hein. Je suis debout là, puis je ne regarde pas. Hein. Tu viens à l'heure ou tu ne viens pas à l'heure, c'est devant Dieu, on est d'accord? On est d'accord. Mais pourquoi tout ça? Tu manques 5 minutes, 10 minutes. Mais la corde, il fallait tenir à partir de quelle heure? 10 heures, il faut tenir la corde. Et t'es pas encore là. Et quelques-uns m'ont dit, parce que moi je ne juge personne, j'essaye d'aider. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, que je viens toujours en retard. Je me réveille pourtant à l'heure et puis le temps arrive, il y a encore ça, il y a un coup de fil, etc. Mais pour moi, c'est la même chose. Alors vous voyez, il y a les oppositions qui sont partout. Donc partout, il faut être prêt pour tenir la corde. Au niveau des finances, la même chose. Les finances, ben si on est là, c'est parce qu'on est fidèle. Si on est chauffé, s'il y a la lumière, c'est parce qu'on ben, est fidèle. Quelquefois, on nous dit, oui, vous parlez trop de finances, trop souvent. Mais enlever les finances et puis on va fermer la porte. C'est aussi simple. Ça fait partie, c'est une bénédiction. Puis quand on donne, la Bible dit, donnez et vous recevrez. Dans tous les domaines, vous avez donné le temps, le sacrifice, la consécration, les finances, eh ben vous allez ensuite recevoir. Il y a une bénédiction, en donnant, nous recevons. Si je tiens la corde, je suis fidèle dans tous ces domaines-là, donc je recevrai la bénédiction. Et puis dans beaucoup d'autres choses, que ce soit la communion fraternelle, on est là, on arrive là pour avoir la communion fraternelle, pour encourager les uns les autres, pour prier les uns avec les autres. Même les choses pratiques, le nettoyage, ben c'est une corde que tu tiens. Imaginez-vous, si ce n'est pas nettoyé, qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est jamais nettoyé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous le savez, hein, ça va sentir, c'est pas bon, ça va nous repousser plus tôt. Ben, vous voyez toutes ces tâches-là, combien tout est important. Entretien de nos bâtiments et tout ça. Alors les amis, pour conclure mon partage avec vous ce matin, j'aimerais te dire, prends une corde, parce que la vie de certaines personnes dépend de la corde que tu es en train de tenir. Vous avez compris? Tellement important. Déjà, je répète, on commence par la prière, par un encouragement, par les sourires. C'est tellement beau. Parce que notre caractère, ben, ça se travaille. On a tellement travaillé à briser non, notre caractère qu'après on est gentil, normalement, on est encourageant, on est correct avec les autres, on est honnête, parce que, vous savez, nous tendons vers la perfection, hein, la Bible nous dit, hein, nous tendons vers la perfection tant que nous ne sommes pas arrivés, ben nous tendons. Tant que nous tendons vers la perfection, il y a toujours des imperfections. Et ça, il faut gérer aussi. Jamais juger quelqu'un, mais et rejeter, mais aussi gérer, toujours dans le but d'aider. Si vous voyez que j'ai une faiblesse et vous allez me juger, est-ce que vous allez m'aider? Hein? Mais si vous allez venir avec beaucoup d'amour pour me dire, écoute, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Reprends-toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais dans le monde, qu'est-ce qu'on voit? La violence, la haine, les jugements, etc. Mais la parole de Dieu nous enseigne différemment et Dieu s'est servi de Paul aussi pour que nous puissions lire aujourd'hui tous ces textes magnifiques, la parole, l'enseignement de Paul qui nous encourage et nous édifie pour aller plus loin. Est-ce que tu vas réfléchir pendant quelques instants et tu t'es dit, Seigneur, oui, je t'adore, c'est formidable parce que je suis un. Oui, j'aime me retrouver devant ta croix parce que c'est toi qui as lavé mes péchés, c'est toi qui es mort pour moi. Et ensuite, est-ce que tu vas dire, maintenant, si j'ai une semaine devant moi, un an, 10 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être 70 ans pour certains. Pourquoi pas? Il y a des jeunes parmi nous. Ben, Seigneur, je vais prendre une corde. Laquelle? Ben, c'est dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, si ce n'est pas clair, tu dis, Seigneur, je tiens déjà une corde ou deux, mais je pense que je suis capable de tenir encore troisième corde. Il faut mieux tenir deux cordes bien que 10 mal, on est d'accord, hein? Parce que si la corde lâche, bah, c'est la mort, hein? On s'écrase. Mais quelquefois, Dieu nous donne la capacité pour que nous puissions tenir une corde, hein? Être actifs, engagés dans un domaine, peut-être dans deuxième, et troisième en préparation. Quelquefois, on se libère de la première corde, voilà, et puis on va prendre la troisième. Parce que j'ai grandi, j'ai mûri, comme Étienne qui donnait à manger, qui servait aux tables, et vous savez, il est devenu quoi? Il est devenu un évangéliste percutant. Vous connaissez cette histoire? Il y avait 7 hommes. Les apôtres, pour se libérer de choses pratiques, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va choisir 7 personnes qui ont un témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit, d'accord? Donc, ils ont arrêté de servir aux tables pour pouvoir aller prêcher, guérir, sauver, imposer les mains, libérer les captifs, mais d'autres ont pris leur tâche. Voilà, on a changé la corde. Cette corde-là, maintenant mon ami, toi t'arrives, prends cette corde-là, moi je vais prendre la troisième ou la cinquième. Je vais me libérer de la deuxième, de la troisième, et puis je vais prendre la septième peut-être. Vous comprenez, il y a tout le travail. Qui, donc, ce travail est payant parce que vous avez compris, j'y répète, voilà, la vie d'un homme qui était porteur de la vie dépendait d'une corde ou de deux ou trois, je ne sais pas, et des personnes qui les tenaient là. Est-ce que c'est clair? Alléluia, on va se lever ensemble. Et puis cette semaine, essayez de trouver une corde. Si tu la consolide celle qui est déjà là, que tu fais déjà, là où tu es encore. Consolide. Parce que l'ennemi nous attaque. Il ne nous laisse pas tranquille. Il veut nous endormir. Et si tu regardes juste une corde, engage-toi pour prendre une. Sinon, tu dis, Seigneur, montre-moi quelle corde. Je vais faire partie de ceux qui étaient dans la maison, avec Paul dans cette maison. Et même si l'ennemi se déchaîne, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Alléluia.